Le silence des petits papiers, chapitre 28. Le papier journal jauni montrait des signes d'usure. Le temps faisait son œuvre. L'article daté du 18 mai 1920 relatait la disparition d'Amélie Bellevaux. La jeune mère de famille, âgée de 28 ans, s'était volatilisée. Le journaliste avait rédigé 8 lignes dans un style épuré. Le texte ressemblait plus à un constat à une demande de recherche. Jean-Christophe connaissait un peu cette histoire véhiculée par les anciens. La disparue avait vécu dans la ferme occupée actuellement par Arsène, le voisin d'Amédée. Il décida d'approfondir ses investigations sur cette femme. Il attendit que l'heure de la sieste soit passée, puis se dirigea vers le marais. Quelques minutes de marche à pied lui feraient le plus grand bien. Arsène le reçut avec plaisir. Accoudé à une barrière en bois, il caressait la tête d'un âne content de l'aubaine. Il expliqua que le Baudet appartenait à une race qui faillit s'éteindre à la fin des années 60. Avec quelques fermiers, il avait entrepris une opération de sauvetage. Il annonça avec fierté à son visiteur que la partie était gagnée. Les ânes pouvaient se reproduire sans danger d'extinction. L'animal, plus docile que la plupart de ses congénères, avait conquis les organisateurs de loisirs. Il n'était pas rare d'en croiser sur les sentiers de Chartreuse ou de l'avant-pays. Comme la plupart des gens du coin, Arsène ne dérogeait pas. Il fallait l'approcher avant d'entrer dans le vif du sujet. Par ses manœuvres coutumières, il songeait aux peuplades africaines, aux longues palabres. Ici, le processus s'apparentait à ses usages en vigueur de l'autre côté de la Méditerranée. Il proposa un verre de blanc à son visiteur, contraint d'accepter sous peine d'offense. Il servit un torboyau infâme. Jean-Christophe but la moitié du verre. L'autre moitié termina au pied de la glycine. Heureusement, Arsène ne vit pas le stratagème. Il proposa un second verre. Jean-Christophe le refusa, en prétextant une incompatibilité avec son traitement médical. L'autre secoua la tête et se servit une rasade. Le gosier humecté, il pouvait converser sereinement. Le vieil homme commença le premier. « Je suppose que vous venez me parler de la grange d'Amédée. »«
Pas du tout. »«
Je veux bien en parler si vous voulez. Je suis venu pour discuter d'Amélie Bellevaux. Ce nom vous rappelle-t-il quelque chose ?»
Je n'étais pas né. Mon père m'a souvent parlé de cette pauvre femme.
Vous prétendez savoir où elle était.
Vous a-t-il révélé l'endroit?
Oh, il certifiait qu'elle reposait sous la grange au crucifix.
Comment pouvait-il l'affirmer?
Avait-il eu vent de quelque chose?
Avant d'acheter la ferme, mon père avait travaillé au village, notamment chez Timothée Duraz. Il l'avait vu et entendu.
Jean-Christophe se garda bien de réagir face aux propos de son hôte. Il ne devait pas révéler le but qu'il poursuivait avec ses questions. Une pièce supplémentaire se mettait doucement en place. Le puzzle se garnissait peu à peu.
À qui appartenait la grange au crucifix à l'époque?
Devinez, Timothée l'aurait vendue en 21. Mon père m'avait expliqué avoir renoncé à l'acheter par respect pour la mémoire d'Amélie.
Il avait une tendresse particulière pour elle?
Je crois. Elle était veuve de guerre avec un garçon à élever. Alors ceci explique cela.
Je ne comprends pas tout. Pourquoi aurait-elle disparu?
Mon cher Jean-Christophe, vous êtes naïf ou vous faites semblant?
On l'a fait disparaître. Il suffit de chercher qui cela pouvait gêner.
Ne me dites pas que Timothée pourrait en être l'auteur.
C'est vous qui le dites.
Moi, je suppose. Mon père savait qu'elle couchait avec le vieux Duraz. Elle était probablement enceinte et voulait profiter de cette situation pour le coincer.
Le coincer?
Oui, lui extorquer de l'argent ou vivre avec lui. Il était veuf, c'était un bon parti, mais il préférait les prendre les unes après les autres plutôt que d'avoir la même dans son lit. On n'exécute pas les gens pour si peu, Arsène.
Ça, c'est ce que vous pensez. Dans ces années-là, la vie valait moins cher qu'aujourd'hui. Celui qui se mettait en travers du chemin prenait un gros risque. Savez-vous ce qu'il est advenu de son enfant? C'était un garçon. Mes parents m'ont raconté que ceux d'Amélie ont quitté la région aussitôt la ferme vendue. C'est eux qui ont élevé l'enfant. Je crois qu'ils se sont installés dans le sud. Je ne saurais vous donner plus de précisions. Mais pourquoi donc toutes ces questions? J'écris un livre sur les vieilles familles et l'histoire du pays. Vos informations sont précieuses. Attention, Jean-Christophe, je ne vous ai rien dit. Je veux finir mes jours tranquillement en caressant mes ânes. Il y a encore des rancœurs et des haines tenaces. Alors n'écrivez pas n'importe quoi, c'est un conseil. Vous avez peur, Arsène? Peur de personne, prudent tout simplement. Ce n'est pas une réponse. Vous lâchez des bruits, puis maintenant vous reculez. Ça ne vous correspond guère, tout ça. Jean-Christophe, il y a ce qu'on se raconte entre quatre yeux, et il y a ce que vous voulez écrire. Vous m'avez piégé, car je ne veux aucune trace de notre conversation. Ici, l'histoire et le temps n'ont pas effacé toutes les mémoires. Ce passé colle à la peau, et moi je tiens à la mienne. Promettez-moi d'en rester là. Entendu, je vous le promets. Un peu à contre-cœur, mais vous pouvez compter sur ma discrétion. On dira que je suis venu me renseigner sur la sauvegarde des ânes. Merci, cher ami. Au fait, vous vouliez me parler de la grange d'Amédée. Non, là aussi je n'ai plus rien à rajouter, l'enquête est close. Une autre fois peut-être. Qui sait? Ils sont beaux, mes ânes.